On a la joie d'accueillir Thomas Contamine. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Vraiment, c'est une joie de vous recevoir. Vous êtes le directeur de Clamor Terrae, une fondation qui agit pour préserver les espaces naturels et la biodiversité, notamment dans les Pyrénées, la grande chaîne des Pyrénées. Alors leur particularité, la particularité en tout cas de votre fondation, eh bien, c'est de combiner, je crois ne pas me tromper, la science, le droit et l'action citoyenne, voilà, pour défendre concrètement la nature. Alors avec vous, on va voir comment cette démarche fonctionne, quels sont les projets en cours. On croit comprendre que vous en avez pas mal, puisque cette fondation, elle est récente, elle a 1 an, et vous allez nous parler hein, de la genèse de cette fondation. Et puis peut-être aussi s'il y a des étapes à franchir, des difficultés à surpasser, voilà, des ambitions aussi écologiques que vous avez, et voilà, comment elles sont confrontées avec la réalité, les réalités, en tout cas locales, que nous impose Dame Nature. Thomas Contamine, nous dire en fait quelle a été la genèse de Clamor Terrae, cette fondation, comment est-elle née?
Alors, cette fondation, elle est née de la volonté et de l'ambition de son fondateur, qui est Monsieur Denis Clément, qui a tout au long de sa vie à la fois accumulé des connaissances naturalistes assez poussées, même si il a toujours été naturaliste amateur, et accumulé aussi un certain nombre de constats sur le niveau de dégradation toujours plus avancé de nos écosystèmes, de la nature en général, que ce soit ici dans les Pyrénées, en France ou partout dans le monde. Et donc il a décidé, à un carrefour de sa vie, à quelques années de sa retraite potentielle, de consacrer l'intégralité de ses compétences, de son temps et de ses ressources à la défense de la nature au sens large, et de créer cette fondation, Clamor Terrae. Donc elle est née de sa volonté personnelle il y a 1 an de ça, et ensuite il a structuré une démarche, une activité, recruté une équipe de salariés, dont je suis, et là on est en phase de déploiement de ce projet qui à l'origine est son idée.
La fondation est aussi une réalité économique, c'est un fonds de dotation. Quelle est la particularité de ce modèle?
Alors, un fonds de dotation, c'est une personne morale qui est sans but lucratif et qui a pour vocation de collecter des ressources financières de philanthropes ou de mécènes et ensuite de les redistribuer pour des actions d'intérêt général. Ça, c'est le cadre global. Et dans le cas de la fondation Clamor Terrae, l'objectif, c'est d'employer nos fonds en lien avec notre objet, qui est la préservation de la biodiversité et la culture du lien qu'entretiennent les sociétés humaines avec la nature.
Et votre
Appelle la
parcours à
résilience.
vous alors finalement, parce que vous êtes salarié et vous avez été approché, je suppose, et quel est votre parcours, je suppose, écologique
Alors écologique, mais par des voies un petit peu détournées. Alors moi, j'ai un parcours qui est pas en droite ligne sur ces sujets-là. Moi, je suis historien et archéologue de formation. Et j'ai fait des études qui avaient pour vocation d'étudier l'interaction qui existe entre des sociétés humaines et leur environnement. J'ai étudié ça pendant plusieurs années, et donc je suis une sorte d'héritier des sciences humaines, et puis sensibilisé aux questions écologiques, à ce qu'on appelle l'écologie historique comparée notamment. Et ensuite, j'ai travaillé dans le monde des collectivités territoriales, donc moi je travaillais précédemment dans les Pyrénées-Atlantiques, pour une communauté d'agglomération. J'ai eu vent de l'existence de ce projet, qui m'a beaucoup plu dans ses fondements, qui était à la croisée d'un certain nombre de constats que j'avais pu faire dans mes missions précédentes et qui m'a donné envie de m'engager voilà, aux côtés de Denis pour ce projet.
Évidemment, vous connaissiez donc les Pyrénées, c'était un attachement peut-être personnel.
Tout à fait personnel. Moi, je suis originaire des Hautes-Pyrénées. C'était l'objet de mes recherches précédemment. C'était une étude comparée entre ce qui pouvait se passer dans les systèmes agro-pastoraux pyrénéens avec les situations dans le bassin méditerranéen, dans les Balkans notamment. Donc j'ai toujours eu cet attachement effectivement aux Pyrénées et on partage avec Denis le constat que les montagnes en général sont parmi les derniers espaces refuges de vie sauvage dans le monde. C'est eux qui concentrent la plus grande biodiversité terrestre, si on met à part bien sûr les forêts tropicales. Et donc c'est à la fois des territoires qui sont particulièrement menacés par le changement climatique, qui pour des raisons qu'on ne comprend pas tout à fait s'accélère encore plus vite en montagne qu'en plaine. les Pyrénées se réchauffent et les Alpes se réchauffent plus vite que le reste de la France. Donc ils sont vraiment soumis à ces chocs climatiques, mais qui à la fois hébergent une biodiversité tout à fait unique. Donc c'est un peu là où se concentrent des enjeux objectifs, en plus de cet attachement un peu subjectif au pays. Il y a aussi beaucoup de choses à faire, et c'est, on en est persuadé, un endroit où on peut tout à fait faire la démonstration d'une cohabitation apaisée entre les activités humaines et puis les besoins minimaux de l'écosystème pour qu'il puisse survivre.
Votre fondation, alors, elle a vraiment pour mission aussi la sauvegarde, la protection des Pyrénées, enfin, de toute la chaîne de montagnes, et de travailler donc avec des partenaires locaux, enfin, au niveau des collectivités, c'est des villageois, c'est des groupements d'habitants, ou comment ça se passe toute cette mission de sauvegarde pour vous?
Alors, peut-être qu'on pourra revenir après sur ce qu'on entend par sauvegarde, parce que dans le milieu de la protection de la nature, on peut entendre plusieurs choses ou mettre plusieurs choses derrière ces notions de conservation de la nature ou de sauvegarde. Il peut y avoir des visions assez différentes, donc on pourra en parler si vous voulez.
Mais
sinon,
peut-être qu'on peut en parler,
on peut en parler tout de suite, on viendra au partenariat après.
Donc il y a plusieurs sens à la sauvegarde.
Alors, c'est pas qu'il y a plusieurs sens, c'est qu'il y a plusieurs manières de la faire.
Oui.
En gros, pour caricaturer, il y aurait dans la conservation de la nature deux courants principaux, des conservations de la nature stricte, c'est-à-dire qu'on part du principe que pour pouvoir garantir le fonctionnement pérenne de ces écosystèmes, il faut exclure tout usage humain de ces périmètres.
Ouais.
Tout. C'est-à-dire que s'il y a du pastoralisme, on n'en met plus, s'il y a de la chasse, on n'en met plus, s'il y a de l'agriculture, on n'en met plus. Donc c'est une vision assez radicale. Et ensuite, il y a d'autres courants qui essaient plutôt d'opérer une sorte de convergence entre les activités humaines et les besoins de l'écosystème. Nous, on est plutôt porteur de cette seconde vision, c'est-à-dire qu'on reste persuadé que ce qu'on appelle par exemple la libre évolution, appliquée à certains milieux très spécifiques, des petites parcelles de forêt avec une richesse biologique exceptionnelle, des zones humides, etc. Donc exclure tout usage humain de ces petits périmètres, ça peut avoir du sens. Mais en tant que stratégie globale, ce n'est pas vraiment tenable ni raisonnable d'imaginer ça. Et d'autant que ça ne résout finalement pas l'espèce de hiatus un peu anthropologique, civilisationnel qu'il y a entre l'homme et la nature, où petit à petit, c'est des trajectoires qui se sont séparées. Vouloir conserver en excluant les activités humaines, c'est finalement continuer de creuser ce fossé qu'il y a entre les hommes et la nature, alors qu'essayer plutôt de travailler dans une sorte de recherche de consensus entre ces parties-là, ça nous semble un peu plus stimulant sur le plan intellectuel, et puis de toute façon plus pragmatique et réaliste.
Quel est votre constat? Vous pensez, évidemment, enfin, quand on, y a une action militante, en tout cas chez vous, il y a toujours un caractère d'urgence dans les associations qui sont en faveur de la sauvegarde, si je dis le mot juste de l'environnement. Quelle est l'urgence pour les Pyrénées, le constat?
Alors, il y a des constats globaux qui sont les mêmes qu'un peu partout, c'est-à-dire que le changement climatique est une réalité quotidienne, c'est pas pour demain ou pour dans 10 ans, ça a déjà commencé, on le voit sur des choses très très pratiques qu'on peut à peu près tous observer, sur l'augmentation moyenne des températures, la diminution du nombre de jours de gel par an, la diminution du volume des précipitations, la diminution du nombre de jours enneigés, les stations de ski en savent quelque chose, la fonte tout à fait alarmante des derniers glaciers qui nous restent, si vous connaissez un peu le coin, le glacier d'Ossou dans le massif du Vignemale fait quand même pas le figure. Donc il y a un certain nombre d'indicateurs objectifs qui sont en fait le reflet de la dynamique mondiale qui est commune à tout le monde, qui s'applique sur les Pyrénées et qui ont des conséquences très concrètes sur le fonctionnement des écosystèmes. Et puis à côté de ça, il y a des pressions qui ne sont pas originales aux Pyrénées, mais qui sont beaucoup plus spécifiques au milieu, de pressions d'aménagement, de création de nouvelles routes, de nouvelles zones urbaines, de nouvelles infrastructures de transport, de production d'énergie, qui ont des impacts tout à fait dramatiques sur le milieu naturel. Et que nous, on n'entend pas combattre pour elles-mêmes, mais qu'on entend interroger au regard des impacts précisément qu'elles ont sur l'équilibre de ces écosystèmes. Parce que force est de constater aujourd'hui que là où collectivement, nous, on va dire défenseurs de la nature, on a tous échoué depuis 30 ans, parce qu'il faut quand même reconnaître que les choses ne vont pas beaucoup mieux depuis qu'on a commencé à s'attaquer au problème. C'est-à-dire qu'il y a eu de très très belles victoires qui ont été remportées, mais globalement, on est quand même plutôt perdant sur la chose. Hein. La dynamique d'effondrement du vivant n'a pas vraiment été inversée depuis qu'on commence à s'intéresser à la question. Le constat, c'est que on a fait vraisemblablement le mauvais diagnostic sur ce qui cause cet effondrement et on a mis du coup en œuvre des solutions qui n'étaient pas forcément adaptées, pas à l'échelle, et puis s'attaquaient pas aux bonnes causes. Et donc c'est ce que, en partie, on n'est évidemment pas les seuls à porter cette vision, on entend déployer concrètement sur le terrain.
Pour rejoindre peut-être la question de départ d'Anne Deloye, est-ce que vous pensez être compris, être entendu par les habitants des Pyrénées, des maires de villages, des agriculteurs, enfin, en tout cas ceux qui pratiquent la terre, des habitants des communes, est-ce que vous avez le sentiment d'être compris, d'être entendu sur ces réalités-là?
Bah, le sentiment, on verra à l'usage, parce que ça fait un an qu'on y travaille, donc pour l'instant, les quelques retours qu'on a sont positifs, mais c'est à travailler. En tout cas, c'est notre préoccupation principale. Oui. Et là, on est rentré dans cette discussion avec des grands concepts de conservation de la nature,
oui,
etc. On applique toujours ça à des cas extrêmement concrets, opérationnels.
Citez-nous un exemple concret, par exemple,
d'action que l'on mène.
D'une action que vous menez.
Donc on rentre directement dans le volet action de la
Fondation. Action, réaction, alors au quotidien, la Fondation Clamor Terrae.
Alors nous, notre action, elle se déploie dans différents axes. Donc Clamor Terrae, pour ceux qui ne sont pas familiers de la langue latine, ça veut dire la voix de la terre, donc ouais. La voix avec un X.
Ouais.
Et donc
la clameur,
voilà, c'est ça, la clameur, exactement. Alors, ça peut être traduit par le cri, la voix, bon, c'est plus ou moins positif ou négatif en fonction de la manière dont on le traduit. Et on était heureux de cette ambiguïté-là, pouvoir à chaque fois jouer sur le côté alarmant et puis sur le côté un petit peu enthousiasmant de la clameur qui pourrait nous porter vers l'action. Et donc on déploie notre action dans différents axes. D'abord, on a un axe qu'on appelle écouter, bon, écouter la voix de la Terre. Donc, c'est-à-dire qu'on a, à travers notre activité, un soutien à des programmes de recherche académiques portés par des universités qui cherchent à améliorer la connaissance que l'on a des dynamiques à l'œuvre dans les Pyrénées et nous aider à la formulation de solutions concrètes. Ensuite, on a un deuxième volet d'action qui est défendre la voie de la Terre. Donc là, on met en place, nous et nos partenaires, un réseau de veille sur les atteintes à l'environnement qu'il peut y avoir sur toute la chaîne des Pyrénées. Alors évidemment qu'on passe à côté de beaucoup de choses, mais enfin, on essaie de structurer ce réseau de veille. Et le cas échéant, quand on constate qu'il peut y avoir un projet qui peut avoir des effets nocifs, on peut engager des recours juridiques pour s'opposer à l'existence de ces projets ou mener des campagnes d'influence si le recours juridique n'est pas fondé, pour essayer de faire avancer le débat, réduire les impacts de ce projet, voire l'empêcher. Ensuite, on a un volet protection de cette voie de la Terre. Donc là, ce qu'on entend par protection, c'est des actions un peu plus concrètes d'acquisition foncière notamment. C'est-à-dire qu'on est convaincu que le meilleur moyen d'appliquer des modes de protection qui vont bien sur certains espaces, c'est d'en devenir propriétaire ou alors de les protéger par voie réglementaire. Donc là, il existe tout un tas d'outils, notamment un outil qui s'appelle les obligations réelles environnementales, qui est un contrat entre un propriétaire et puis une tierce personne représentante de l'autorité environnementale. Un contrat qui est passé et qui stipule que le propriétaire s'engage à préserver l'intégrité biologique et les caractéristiques de l'écosystème qui est présent sur sa parcelle.
Vous êtes en train de dire que finalement, votre fondation peut acheter des parcelles en fait, de terrain et s'engager à ce que...
À la protéger, tout à fait.
À la protéger, c'est-à-dire en la laissant vivre.
Alors tout dépend, c'est
action,
ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure,
oui,
c'est-à-dire que... Alors du coup, sur cette question de l'acquisition, donc nous on peut acheter des terrains en propre et en devenir les propriétaires, ou alors on peut aider nos partenaires à devenir propriétaires. Nous, notre objectif, c'est pas du tout d'accumuler des hectares, c'est de contribuer à leur protection. Si on a des partenaires qui partagent nos valeurs et s'engagent dans les mêmes intentions que nous à les protéger, on les aide simplement à devenir propriétaires. L'un de nos partenaires principaux sur ce sujet, c'est le Conservatoire d'espaces naturels, Occitanie, avec qui on a une convention de partenariat. On est en train d'en établir une avec le Conservatoire côté Nouvelle-Aquitaine. On travaille avec Néo, Nature en Occitanie également, le Fonds Forêt Préservée, voilà, un certain nombre de partenaires. Et une fois qu'on est propriétaire ou qu'on a la maîtrise de ces fonciers, l'objectif, c'est d'inverser le regard qu'on y porte. C'est-à-dire qu'on commence par analyser la qualité écologique du milieu, et en fonction de la qualité écologique du milieu, on en déduit les usages qu'on peut avoir. Si c'est une forêt, on dit, ben là, c'est très précieux, cet îlot, on n'y touche pas. Par contre, ici, on peut s'autoriser à l'exploiter. Mais comment? Comment est-ce qu'on peut développer un mode d'exploitation de cette forêt qui préserve le fonctionnement de son écosystème? Si on prend la même chose sur une prairie, on dit, ben là, il y a un petit îlot sur lequel les bêtes ne doivent pas aller pâturer parce qu'il y a telle bestiole qui niche ou c'est important de le préserver. On le préserve. Par contre, sur le reste, évidemment qu'on laisse se déployer l'activité pastorale, mais on essaie de la penser en fonction des besoins de l'écosystème. Tout ça dans une logique de pérennité. En fait, c'est du pragmatisme pur. En fait, pour que la fête puisse durer encore un petit peu, il faut faire en sorte que de pas trop scier la branche sur laquelle on est assis. Donc c'est ça la logique qui nous pousse.
C'est passionnant ce que vous nous racontez, parce que là on découvre en fait des actions beaucoup ignorent, et j'avoue, je m'inclus dans cette peut-être majorité. Comment ça se passe en fait? Vous achetez pas des parcelles constructives, vous faites pas vos achats sur le bon coin. Enfin, c'est-à-dire que vous prenez peut-être des pans de montagne. Comment se font les choses? Comment se font ces acquisitions?
On a monté un petit réseau de veille qui nous permet de se tenir au courant de ce qui se vend. Parmi les choses qui se vendent, il y a des choses très intéressantes sur le bon coin, donc on est aussi branché sur le bon coin.
Vos veilleurs, ce sont en fait des militants.
Alors, on a un certain nombre de bénévoles,
ou...
et puis ensuite, ça fait partie aussi de notre activité
de votre
en tant que salarié, effectivement.
Et vous avez un réseau quand même qui est structuré.
Exactement,
parce
c'est là où j'allais en venir.
Il vous faut des scientifiques, des juristes. Comment ça fonctionne?
Alors, pour le volet scientifique, adossé au fonctionnement de notre fondation, il y a un comité scientifique qui est composé de chercheurs. Donc, en gros, nous, on les soutient dans leur programme de recherche, en échange de quoi ils nous aident à la consolidation stratégique de nos positionnements, à nous aider à arbitrer entre telle parcelle ou telle parcelle par rapport à l'intérêt écologique qu'elle représente. Ensuite, on a un réseau de partenaires historiques, parce que sur ces sujets-là, la fondation Clamor Terrae, elle n'est pas révolutionnaire en tant que telle. Ça fait 30 ans qu'il y a des gens, y compris dans les Pyrénées, qui s'occupent de ça. France Nature Environnement, Nature en Occitanie, etc., qui font très très bien les choses. Donc l'idée, c'est qu'on coordonne nos actions pour passer à l'échelle, en fait, parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui.
Parce que vous pensez qu'il manque encore d'acteurs? Pour la défense, est-ce que le choix peut pas être de venir renforcer en fait des fondations existantes ou des organismes existants? Est-ce que vous pensez qu'il faut multiplier les acteurs?
Ah, il faut les deux. Il faut les deux, c'est-à-dire que il y a un certain nombre d'acteurs qui sont bien positionnés, qui ont un niveau d'expertise suffisant. Pour ces acteurs-là, ce qu'il faut, c'est augmenter leur pouvoir d'action, donc leurs ressources financières, très pratiquement. Ouais. C'est le cas de France Nature Environnement, par exemple. Ils ont une expertise exceptionnelle en matière d'affaires juridiques. Ils sont parfaitement structurés pour ça. Après, ils fonctionnent à 90%, en tout cas dans le département, avec des bénévoles. Donc, ils ont besoin de soutien pour pouvoir augmenter leur pouvoir d'action. Et ensuite, et c'est le pari en partie de la Fondation, il y a quand même dans le paysage des gens qui s'occupent de la protection de la nature des angles morts dans l'action. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions qui se trouvent au point de convergence, mais dans un angle mort, entre les actions des collectivités ou des services déconcentrés de l'État et puis des associations. Soit parce que les collectivités, c'est pas dans leurs prérogatives, une collectivité n'engage ses actions que dans le cadre d'un périmètre de prérogatives défini. Et puis les associations de protection de l'environnement historique, elles ont un pouvoir d'action financier ou en termes de ressources humaines qui est limité aussi. Et donc, à la convergence de tout ça, il y a des angles morts. Et c'est précisément ce que nous, on cherche à investir.
Et puis, évidemment, vous êtes un fonds de dotation. Donc, j'imagine que tous les mécènes, auditeurs de Radio Présence sont les bienvenus pour venir à la rencontre de Clamor Terrae pour se renseigner. Vous avez dit qu'il y avait un site internet. Moi, je vous donne l'adresse. C'est www.clamor-terrae.org. www.clamor-terrae.org. Et puis c'est vrai que parfois on peut se sentir un peu impuissant face à la crise écologique quand on est derrière son poste radio en entendant les nouvelles ou les télés.
Justement, en intégrant une équipe, peut-être qu'on peut chacun à notre niveau apporter notre petite pierre.
Mais oui, c'est ça, c'est le rôle de la responsabilité collective. Exactement. Écoutez, rejoignez peut-être les veilleurs, c'est ça? C'est le message.
On vous invite. Venez avec nous, on n'est jamais trop nombreux.
Merci Thomas Contamine pour vraiment cette sensibilisation à la protection de nos Pyrénées que nous aimons tant et on veut les aimer encore longtemps.